On commence avec une question qui semble toute simple, mais qui est en réalité un vrai casse-tête pour beaucoup de professionnels. Quelle version de ChatGPT faut-il utiliser?
Oui, on pense tout de suite à la puissance, au prix.
Exactement. Mais voilà, une analyse toute récente, publiée il y a à peine 24 heures par une juriste spécialisée en IA, propose de regarder le problème sous un angle complètement différent.
Absolument. L'approche de cette source, c'est de dire que pour un usage professionnel, le premier critère, et en fait le seul au départ, ça ne devrait pas être la performance.
Ah non.
Non. Ça devrait être la confidentialité des données. Et c'est un changement de perspective assez radical. Ça rend la réponse presque évidente.
Alors, plongeons dans cette analyse. Notre mission, comprendre cette distinction cruciale, et souvent invisible, entre les offres grand public et les offres vraiment professionnelles.
Et surtout, ce que ça implique concrètement pour la sécurité des informations d'une entreprise.
Pour bien comprendre l'enjeu, l'article nous invite d'abord à distinguer deux grandes familles de données qu'on manipule au travail.
Oui. D'un côté, il y a les données, disons, réglementées. On pense tout de suite au RGPD, forcément.
Bien sûr.
L'exemple donné est très parlant. Un simple mail contient un nom, un prénom, donc paf, le RGPD s'applique quasi systématiquement.
C'est ça.
Et à côté de cette famille, il y en a une deuxième, les données qui sont confidentielles mais non réglementées.
Alors là, on parle de quoi exactement?
Là, on parle du cœur de l'entreprise, une formule chimique, le code source d'un logiciel, la stratégie commerciale pour le prochain trimestre, des données financières internes.
Le genre de choses qu'on ne veut surtout pas voir fuiter.
Exactement. Ici, il n'y a pas d'obligation légale précise comme le RGPD, mais le risque business, lui, il est majeur. Une fuite peut littéralement couler la boîte.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'article souligne un risque qui est totalement nouveau, propre aux IA. Ce n'est pas juste un problème de stockage de données comme sur un cloud classique.
C'est ce que la source appelle la porosité cognitive. Et le terme est bien choisi.
La porosité cognitive, ça sonne un peu inquiétant.
Ça l'est. Contrairement à un disque dur qui va stocker passivement une information, une IA, comme ChatGPT, elle comprend ce qu'on lui donne.
Elle l'analyse.
Elle va plus loin. Si l'entraînement est activé, elle peut en conserver une trace, une sorte de trace résiduelle, et la réutiliser plus tard. C'est une différence fondamentale qui change toute la donne.
Trouver des semaines plus tard dans la réponse qu'elle fournit à un concurrent qui poserait la bonne question. C'est de ça qu'on parle.
C'est exactement de ça qu'on parle. Ce ne sera pas une copie parfaite. Ce sera plus diffus, plus subtil. Mais le risque est bien là. Le modèle peut réutiliser un style, une structure, des concepts qu'il a appris grâce à vos données.
L'information devient poreuse, comme le dit l'article.
Voilà. Elle peut suiter dans des réponses futures. On passe d'un risque de vol à un risque de, disons, contamination intellectuelle.
C'est vertigineux. Et j'imagine que c'est là que la différence entre les abonnements devient cruciale.
C'est le point central.
L'analyse est très claire là-dessus. Il y a deux mondes juridiques totalement distincts. Et attention, le piège, c'est que les noms sont trompeurs. Les plans plus et pro de ChatGPT ne sont pas des comptes professionnels au sens juridique.
C'est le jour et la nuit. Avec les plans grand public, donc le gratuit, le plus et même le fameux pro, juridiquement, le fournisseur agit comme un responsable autonome de traitement.
Qu'est-ce que ça veut dire en clair?
En clair, ça veut dire qu'il n'y a aucun contrat de sous-traitance de données. Il n'y a pas de DPA, ce fameux Data Processing Agreement.
D'accord.
L'entreprise qui envoie les données reste donc pleinement responsable de ce qui leur arrive. Et pire, il y a une rétention incompressible des conversations de 30 jours.
30 jours? C'est énorme!
C'est une fenêtre d'exposition au risque d'un mois, quoi qu'il arrive.
C'est fou comme différence, hein? Et donc, avec les plans qui sont eux vraiment professionnels, tout change.
Tout bascule. Avec les offres business ou enterprise, le cadre juridique s'inverse complètement. Le fournisseur devient un sous-traitant au sens du RGPD.
Et là, il y a ce DPA.
Là, la relation est encadrée par un DPA formel. Et ce contrat impose des choses très claires. Absence d'entraînement sur les données par défaut et l'accès à des paramètres de sécurité avancés. La différence, elle n'est pas juste cosmétique, elle est fondamentale.
D'accord. Donc, si on veut être en règle, il n'y a que deux options. ChatGPT Business et ChatGPT Enterprise. L'article donne des détails sur les coûts et ça pique un peu.
Oui, on change clairement de budget. Le plan business est présenté comme le véritable minimum. C'est 29 $ par mois par utilisateur.
Ce n'est pas si énorme.
Le ticket d'entrée est tout de suite plus élevé. Pour le plan Enterprise, là on parle aux très grandes organisations.
Et les prix?
Le tarif serait autour de 60 $ par mois, avec un minimum de 150 sièges.
Ah oui, là, le calcul est vite fait. on n'est plus du tout dans la même catégorie.
On est dans une autre dimension. Mais les garanties qui viennent avec sont substantielles.
Justement, qu'est-ce qu'on achète à ce prix-là ?
On achète la conformité RGPD, la possibilité de configurer la rétention des données jusqu'à 0 jour pour l'offre Enterprise et la garantie contractuelle que les données ne servent pas à l'entraînement.
Donc, la fameuse porosité cognitive est bloquée.
En théorie, oui. Et on a même le choix du lieu d'hébergement, y compris en Europe, ce qui est un point de plus en plus important.
On pourrait croire qu'avec ça, on est totalement protégé. Mais l'analyse apporte une nuance importante, non ?
En effet, elle pose la question. Est-ce que le risque zéro existe ? La réponse est non.
Jamais.
Jamais. Même avec ces plans, 3 risques résiduels, bien que rares, subsistent. Le premier, c'est l'intrusion informatique, le piratage.
Classique.
Le deuxième, c'est la réquisition judiciaire. OpenAI reste une société américaine. Et le troisième, sans doute le plus fréquent, c'est l'erreur interne. Un utilisateur qui partage une conversation sensible par erreur, par exemple.
Et pour ceux qui veulent vraiment éliminer même ces risques-là, l'article mentionne une alternative.
Oui, pour un contrôle total, il y a les modèles open source. On pense à Mistral, Llama 3.n, hébergé en interne.
Hébergé en interne, ça veut dire sur ses propres serveurs.
Exactement. Là, on supprime les risques liés aux fournisseurs, mais au prix d'une infrastructure technique qu'il faut gérer soi-même.
C'est un autre métier.
C'est un vrai métier qui demande des compétences et des investissements importants. Ce n'est pas à la portée de toutes les PME.
Abordons un cas très concret. Que faire si, au travail, on utilise déjà un plan gratuit, plus ou pro ? Est-ce qu'il faut tout arrêter immédiatement ?
Alors, la source donne des consignes très très claires. Une telle utilisation ne peut être acceptable que si, et seulement si, aucune donnée personnelle, confidentielle, stratégique ou propriétaire n'est transmise.
Aucune.
Aucune. L'article précise d'ailleurs que les techniques d'anonymisation des documents, où on remplace les noms par des X, sont souvent contre-productives.
Ah oui ? Pourquoi ?
Parce qu'elles détruisent tellement le contexte que ça enlève tout l'intérêt de l'IA.
Il y a aussi un réglage crucial à faire, n'est-ce pas ?
C'est le préalable indispensable. Dans les paramètres de son compte, il faut impérativement vérifier que l'option « Améliorer le modèle pour tous » est bien désactivée.
D'accord, ça c'est la base.
Mais il y a un autre piège à connaître.
Lequel ?
Même avec cette option désactivée, si on utilise les boutons « pouce levé » ou « pouce baissé » pour donner un feedback,
oui.
Eh bien, la conversation associée pourra quand même être utilisée pour l'entraînement du modèle.
C'est vicieux ça. On pense bien faire en donnant un retour.
Et en réalité, on ouvre une brèche dans la confidentialité qu'on pensait avoir verrouillée.
C'est une information capitale. Une dernière question. Est-ce que toute cette logique s'applique uniquement à ChatGPT ?
C'est ce qui est fascinant. La source généralise ses principes à tous les grands modèles d'IA. Claude d'Anthropic, Gemini de Google, Grok de xAI.
Donc c'est un cadre de pensée universel.
Exactement. La question centrale reste toujours la même. Quel que soit l'outil. Le fournisseur agit-il comme un service grand public ou comme un partenaire professionnel encadré par un contrat, un DPA ? C'est la question à poser.
Alors que doit-on retenir de tout ça ? Finalement, le choix d'un outil d'IA pour un usage professionnel est bien moins une décision technique
qu'une décision juridique et stratégique.
Absolument. La vraie différence entre un plan pro et un plan business ne se situe pas dans les fonctionnalités, mais dans la maîtrise des données et la responsabilité de l'entreprise.
C'est un changement de paradigme complet. Et pour aller plus long, on pourrait se poser une question qui prolonge la réflexion de la source.
Je vous écoute.
Au-delà des contrats, des paramètres techniques, le véritable enjeu n'est-il pas de définir une culture d'entreprise autour de l'IA ?
C'est-à-dire ?
Savoir non seulement quel outil utiliser, mais surtout se mettre d'accord sur quelles informations notre organisation est prête à confier à une intelligence externe, qu'elle soit propriétaire ou open source d'ailleurs.
C'est vrai ?
C'est peut-être ça la prochaine frontière de la gouvernance des données. Apprendre à gérer les données non plus au repos, mais en interaction constante avec une intelligence active.